Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Aligre. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir Alexandre Martel, Baptiste Vallée et Ruben Storès-Lacaze, trois étudiants pour une émission de philosophie au présent sur le thème du transhumanisme et de la question de l'homme incarné. Ce que nous nommons aujourd'hui notre incarnation soulève des enjeux métaphysiques, des enjeux éthiques qui vont ouvrir aujourd'hui un débat sur notre corps, notre présence charnelle au monde. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps? Qu'est-ce que c'est que d'être un corps? Comment est-ce qu'on le vit, ce corps? Comment vit-on avec son corps? Et quelle place on lui donne? Au fond, les profonds bouleversements que le transhumanisme induit dans nos perceptions, notre langage et nos actions vont nous conduire à discuter de ce qu'il reste dans notre société, du corps de chair qui nous inscrit dans ce monde en rapport avec d'autres corps et qui nous donne une conscience si singulière d'être homme, une présence sensible particulière. Alors, je voudrais commencer par l'un d'entre vous en vous demandant, au fond, pour vous, jeunes d'aujourd'hui, au cœur d'une crise sanitaire qui marque nos corps dans des restrictions, bien sûr, de déplacement, mais aussi de contact humain, comment ce corps de chair que nous éprouvons en même temps qu'il nous éprouve est lui-même éprouvé par cette crise? Comment vous la vivez, vous, aujourd'hui? Et à l'aune de quelle réalité vous vous placez pour, finalement, envisager l'avenir?
C'est vrai que cette période a été très éprouvante à différents niveaux, et c'est intéressant comment notre corps a su nous montrer à quel point il faisait notre lien entre nous et le monde qu'on explorait, et aussi comment ce lien pouvait parfois être altéré et parfois rompu quand la situation nous poussait à nous réfugier un peu là où notre corps était moins stimulé.
Je pense qu'on a réussi à réapprendre aussi à communiquer, enfin... Personnellement, ça a été mon cas, à aimer d'une autre manière, à parler d'une manière, à agir avec les gens différemment. Moi, j'ai pris beaucoup de recul sur ça, parce que j'étais personnellement très tactile, mais c'est compliqué aussi de se restreindre là-dessus. Et on réussit à se développer intérieurement en pensant autrement.
Pour reprendre ce que disait Baptiste, j'aurais dit que pendant cette période-là, enfin avant, on se rendait pas tellement compte de la chance, si je puis dire, qu'on avait d'avoir toutes ces interactions, etc., tous les jours. Et puis c'est à ce moment-là où on a plus eu ces interactions qu'on a pu se rendre compte qu'elles nous manquaient et finalement qu'on en avait besoin pour vivre tous les jours et qu'on n'aurait pas pu continuer à vivre sans. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que qu'on est finalement quelque chose qu'on n'imaginait pas avant parce qu'on avait toutes ces choses-là qu'on n'imaginait pas.
Oui, et au fond, quand je vous entends parler, Rubens, Baptiste et Alexandre, en fait, ce qui m'étonne, c'est ce rapport si singulier que vous développez à votre réalité incarnée et à celle d'autrui. En fait, comment cette réalité singulière, d'après vous, est-elle changée par la technologie aujourd'hui?
On arrive à parler, à communiquer, à apprendre. Sur les gens, avec, non pas avec des liens humains, mais avec des liens technologiques, par l'exemple le plus basique qui est les réseaux sociaux ou les messages, qui a réinventé une manière de se communiquer et de créer des liens aussi.
Et qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de communiquer dans sa différence, dans son côté si étrange peut-être? Par rapport à tout un virtuel qui nous éloigne.
C'est intéressant parce que les réseaux sociaux, ils nous ont amené quelque chose de super facile. Dans la communication maintenant, on peut juste liker, on peut laisser un commentaire, on peut poster un tweet, et c'est terriblement plus facile que venir voir quelqu'un et engager la conversation, parce que c'est toujours plus limité, toujours plus cadré. Et c'est un peu à double tranchant, et je crois que la période là, elle nous a montré à quel point on pouvait s'enfoncer dans cette voie de la simplicité de la communication, qui est pas forcément mauvaise, parfois ça aide beaucoup dans certains contextes, mais il faut reconnaître que dès qu'on veut s'explorer un peu plus entre personnes, entre humains, y a un côté très limitant, et je crois que ça peut nous révéler ça aussi.
Aussi, on a appris à vivre avec par confort, et maintenant on n'arrive plus à s'en détacher, et c'est comme un mauvais médicament qui a des effets secondaires duquel on est accro, qui nous fait du bien, mais qui nous emprisonne un petit peu en même temps.
Ouais. Et puis j'ajouterais que même au-delà de la communication, par exemple pour nous qui sommes en terminale, on a aussi donc on a nos cours, ça fait partie de la communication, mais on a pu se rendre compte que dans cette période-là, on pouvait tout faire à distance quasiment. On n'a pratiquement plus besoin de sortir si on n'a pas envie de sortir. Par exemple, le sport, on pourrait le faire chez nous avec des cours qui sont en ligne. On peut communiquer donc facilement, comme ils l'ont dit, en ligne. On peut commander, on peut faire plein de choses en ligne, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc finalement, rien que par exemple aller au restaurant ou aller quelque part ou aller même dans un supermarché d'aller, ou même dans un marché, d'aller rencontrer les gens, même de leur acheter quelque chose, c'est des interactions, bien qu'elles ne soient pas personnelles ou intimes, qui sont quand même de la vie de tous les jours, qui étaient de la vie de tous les jours tout du moins, et qui pour certaines personnes aujourd'hui ne sont plus qu'un lointain souvenir, qui j'espère va revenir, mais même il y a des gens qui vivaient comme ça peut-être tout le temps j'imagine. Et ces interactions-là, on les a quasiment tous perdues pendant cette période-là, et ces interactions qui manquent à beaucoup de gens, je pense, mais qui nous ont fait rendre compte qu'on a la technologie pour ne plus les avoir à les faire. Donc, et ça catégorise un petit peu tout ce qu'on a à faire. Par exemple, les cours de sport en ligne, on suit des cours de sport, ou les cours à distance, par exemple, sont beaucoup plus limités que les cours en classe. On peut faire beaucoup moins de choses, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus catégorisées et beaucoup moins libres, si vous voyez ce que je veux dire, que à l'époque, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. À l'époque, je parle de l'époque, mais bon, j'espère que ça va revenir quand même.
Oui, dans l'ancien monde, on pourrait presque dire, monde, en effet, Alexandre. Et est-ce que vous pensez que cette manière d'avoir un rapport à la technologie nous isole ?
Elle nous isole dans le cas où on n'arrive pas à prendre de recul dessus. Où on l'utilise comme seul moyen et non pas comme complément pour parler avec des personnes.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un usage non libre à ces machines et qu'on s'y soumet, en réalité, qu'on est aliéné par elles. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que dans cette réalité que vous décrivez, il y a à la fois un caractère, je reprends ce que disait Rubens, facile, et quelque chose qui semble nous faire du bien, il faudrait voir de quel bien il s'agit justement, et qu'est-ce que c'est que nous faire du bien. Dans ce que vous disiez, Baptiste, il y a une réalité presque sociale qui est engagée dans ce rapport à l'autre et à soi. Et puis j'ai retenu de ce que vous disiez, Alexandre, quelque chose qui va créer en quelque sorte une transition pour notre débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, quel rapport au temps on peut avoir avec cette nouvelle façon de communiquer entre nous et cette nouvelle parole qui est induite par les réseaux sociaux, par exemple, dont vous parliez, Baptiste. Et donc, la question que je voudrais aujourd'hui envisager, c'est celle, au fond, qui est au cœur du sujet du transhumanisme et de l'idéologie qu'il induit, c'est-à-dire de l'homme augmenté. Un homme augmenté, pour ne pas dire un homme désincarné, ce serait un homme qui arriverait à tout contrôler par ses machines, contrôler le temps, contrôler l'espace, contrôler des données chiffrées, des big data, et qui, dans cet univers de contrôle, de maîtrise, risquerait peut-être de se perdre lui-même. Alors, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un rapport de cause à effet, mais il y a un risque. Et d'ailleurs, dans vos trois réponses, j'entendais le risque à courir. Or, le risque à courir, c'est celui de notre humanité. Mais il y a un risque de ces machines qui serait le risque de l'aliénation. Ma question maintenant, c'est de me dire comment vous pensez cette révolution transhumaniste aujourd'hui ?
Elle est source de rêverie pour beaucoup
Baptiste,
de personnes,
oui.
Parce qu'elle donne des capacités qu'on n'a pas dans notre corps de chair, des capacités sur, je sais pas, la vue, pour soulever des poids, pour se déplacer, etc. Et donc, à première vue, elle fait envie. Elle nous permet simplement de nous améliorer, de nous faciliter la vie. Mais je pense que dans le même cadre que les réseaux sociaux, c'est une facilité en fait confortable de laquelle on ne va pas réussir à prendre du recul, en tout cas pas tout le monde, et dans laquelle on peut rapidement devenir aliéné par ce confort, comme on a toujours été aliéné par les sociétés toujours plus confortables dans lesquelles on a de moins en moins de choses à faire.
C'est vrai qu'on s'est pris un peu les pieds dans le tapis sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas vu venir. Et maintenant, beaucoup d'experts en réseaux sociaux, beaucoup de développeurs, se rendent compte qu'ils ont créé quelque chose de terrible. Et que parfois, quand on crée quelque chose, on fait une erreur, et on adapte le produit, et à la fin, on arrive à quelque chose de bien. Et là, on s'est rendu compte, les réseaux sociaux, ça va bientôt faire 15 ans qu'ils sont en plein développement et ils créent de plus en plus de problèmes. Et c'est une rare fois où on a une création comme ça qui se passe aussi mal. Et en même temps, on peut se dire que c'est l'occasion avec ce transhumanisme qui est dans le même schéma d'intérêt et aussi de risque, de réussir le coup pour le coup et de trouver ce moyen d'avoir toujours cette intelligence en recul qui est prête à agir et à nous laisser un peu plus de liberté et pas faire comme avec les réseaux.
Oui, et du coup, quand je vous entends, Baptiste et Rubens, ce qui me vient à l'esprit, c'est de différencier aussi le post-humanisme et le transhumanisme. Parce que le post-humanisme, ce n'est pas cette idéologie transhumaniste qui va désigner des mouvements d'opinion, qui considèrent des sciences, des techniques aussi, qui vont réaliser toutes nos aspirations. Vous parliez d'un rêve tout à l'heure, c'est intéressant justement. Le post-humanisme, c'est au fond l'homme que nous sommes aujourd'hui, l'homme après cet homme d'hier. Hein. Un homme qui reconfigure son temps, son espace, ses rapports à lui-même et aux autres. Un homme qui donne d'autres assises à son incarnation. Et dans le post-humanisme, il y a l'idée, au fond, d'un homme qui serait débarrassé, en quelque sorte, de ses désirs, de ses passions, de ses affects, qui n'aurait plus qu'à liker, qui n'aurait plus qu'à donner des images de lui, et qui, au fond, ne serait plus qu'une sorte d'image de lui-même. Un homme qui aurait, finalement, un masque. Un homme qui se réduirait à son masque, en fait, et qui ne serait plus dans sa chair. Et comment, alors, vous lisez ce décalage, aujourd'hui, avec la chair? Dans quelle mesure la machine va venir, selon vous, s'incorporer à nous, au point de nous faire perdre pied, vous employiez cette expression, je la reprends de vous, Rubens, c'est-à-dire de nous faire perdre corps, présence au monde? On le voit déjà avec ce ciel qu'on n'arrive plus à voir, ce ciel qui est devenu opaque. C'est comme si les étoiles qui avaient disparu du ciel la nuit ne nous renvoyaient plus à notre étoile, c'est-à-dire à notre désir profond. Un désir de rencontre, un désir d'affection, vous disiez tout à l'heure, de convivialité, mais dans le sensible, parce que la chair c'est aussi le sensible. Le fait d'être pathétiquement ouvert, c'est-à-dire d'être en ouverture sur le visage de l'autre, sur sa présence incarnée, vivante et vibrante, on peut même dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est-à-dire, dans quelle mesure vous estimez que l'usage de notre liberté, qui s'exerce ici dans le rapport aux machines, doit être de plus en plus vigilant pour ne pas nous laisser justement prendre à ce risque d'être incorporé à la technique?
J'ai vraiment l'impression que c'est là à vous de jouer. Il s'agit de, vous avez parlé de deux choses, d'ouverture, ouais, et de liberté. Et c'est vraiment ces deux axes qui sont utilisés si on veut bien s'engager dans ce chemin qui, pour ma part, me semble tout tracé et en même temps qui semble tellement diversifié. Il faut d'abord s'ouvrir les yeux et quand on a le bon constat et que chacun, individuellement, on peut se repérer, on peut maintenant s'engager dans notre liberté, utiliser cet outil pour faire le bon choix, mais toujours en se remettant en question, sans jamais s'endormir, puisque c'est assez dur. Hein. Et à mon avis, chacun doit continuer sans s'arrêter, mais il faut toujours rester ouvert, il n'y a pas de solution ultime qui nous permettrait de nous poser définitivement.
Oui, pour reprendre ce que disait Rubens, il faut connaître ses limites et connaître son corps d'humain, et savoir où s'arrêter, où est la limite, si je puis dire. Et même si on la dépasse, savoir quand même où elle est pour pouvoir y revenir si jamais on a besoin d'y revenir un jour et ne pas finalement la perdre et qu'elle devienne floue à force d'un usage abusif ou de machines ou de techniques qui vont finalement faire perdre cette humanité et finalement flouter cette limite entre l'humain et la machine, qu'on appellerait peut-être le post-humain d'ailleurs,
oui, exactement,
à voir avec la définition. Et donc c'est cette limite floutée qu'on pourrait perdre si jamais on n'est pas assez vigilant sur ce qu'on va faire et sur ce que nous apporteront les machines, par exemple.
Et aussi, en parlant de vigilance, contrairement aux réseaux sociaux desquels on n'a pas pu se détacher parce que les créateurs de ces réseaux sociaux ne nous ont pas avertis sur les dangers de ceux-ci, peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience non plus, la vigilance sur le transhumanisme, elle doit être encore plus développée, beaucoup plus accrue, parce que c'est évidemment beaucoup plus addictif, je sais pas, de se faire augmenter la vue et de se dire, bah tiens, je pourrais aussi me faire augmenter les bras, je ne sais pas, me faire changer le visage, etc. Et si les créateurs, il y a une grosse responsabilité de la part des créateurs et des laboratoires, de dire, d'informer les gens, en fait, et de les prévenir aussi sur les risques que ça comporte.
C'est vrai, mais à mon avis, il faut jamais tout remettre sur le créateur. Parce que même le créateur, avec toute la bonne volonté du monde, il va faire une erreur, c'est sûr. Et c'est justement en gardant cette liberté individuelle, toujours avec cette participation du créateur et du concepteur, qu'il faut agir. Il faut jamais se reposer sur le créateur comme on l'a fait avec les réseaux sociaux, puisque eux-mêmes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait faire.
Si je puis me permettre, pour rejoindre Ruben, c'est qu'il faut savoir porter un avis critique sur finalement le produit qu'on achète ou alors la chose à laquelle on souscrit un abonnement, etc. Il faut savoir porter un regard critique et se dire « Ah, ça, c'est peut-être pas bien pour moi, ça va me faire perdre telle chose, je vois ce que ça va donner. » Donc ce n'est pas forcément tout le temps de la faute du créateur, parce que ça peut aussi être sa faute de ne pas voir la limite de la chose. Mais je conviens que parfois, il y a des créateurs qui font des choses et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ou parfois même laissent des erreurs... enfin, en le voulant totalement, juste pour un argument économique, ça arrive aussi, mais c'est pas tout le temps le cas non plus.
Oui, cette distance critique dont vous parlez, Alexandre, ce recul nécessaire, hein, me fait réagir parce que, de fait, il s'agit d'éduquer aujourd'hui les jeunes à être sur un réseau social, à s'en servir pour éviter de tomber dans les pièges et de tomber dans cette parole humiliée et cette absence, au fond, de présence qui risque d'envahir toute la temporalité de l'existence de ce jeune, au fond. Et par rapport à cela, j'aimerais avec vous discuter d'un film que vous avez peut-être vu, Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol, en 1999. C'est vraiment un film où on voit l'histoire de Vincent Anton Freeman, qui est un jeune homme qui réussit finalement aller dans l'espace en croyant jusqu'au bout à son rêve d'enfant. Et là, mais malgré son patrimoine génétique défectueux, il parvient à réaliser son rêve, ce jeune. Donc son histoire se situe dans un futur proche où la réussite n'est pas définie par le talent, mais par les gènes. Et dans ce film, on le voit, les gènes distinguent les individus les uns des autres et déterminent des classes, un peu comme dans... Le meilleur des mondes d'Huxley. Donc il y a comme un clivage entre deux points de vue, hein, le clivage entre le point de vue déontologiste, hein, qui serait au fond le point de vue d'une morale qui s'appuie sur des principes éthiques, qu'on ne touche pas à la vie, et le point de vue conséquentialiste, aujourd'hui, qui pourrait me faire réagir à l'instar de Rubens en me disant ben, le transhumanisme nous apporte des organes artificiels, une vue augmentée, deux bras quand on n'en a plus qu'un. Donc c'est autant de gains pour l'homme, de gains par rapport à son espérance de vie, par rapport à des maladies qu'il n'aurait plus ou qu'il pourrait prévenir. Donc derrière ces désirs accrus par le transhumanisme, donc par la technologie de plus en plus perfectionnée, la nanotechnologie, hein, avec puces incorporées dans le corps, on peut se dire que nous avons progressé, augmenté nos capacités de perception, d'intelligence ou des capacités de force physique. Et derrière, au fond, toutes ces augmentations, que se trame-t-il de l'homme? Qu'est-ce qui se perd de lui, au fond? Il se perd peut-être quelque chose qui aurait rapport à sa fragilité. Et dans ce film, on voit que les fragiles, les gens fragiles n'ont plus leur place. Qu'il faut être performant en tout, donc avoir les bons gènes, être dans le bon clan, dans le clan des alphas, dirait Huxley. Donc vous voyez, en amont, il y a comme l'idée d'un monde, le monde de Gattaca, qui s'oppose à des valeurs de nos sociétés modernes, où les hommes naissent libres et égaux en droit, au fond, et où ils sont distingués par le mérite et non pas par les gènes. Donc, au fond, dans ce Bienvenue à Gattaca, comme dans l'univers huxlien ou dans l'univers orwellien, il y a une prédominance du mensonge. On enlève tout ce qui pourrait toucher à la sincérité, à la générosité, et il n'y aurait plus de compassion. Donc, c'est une société qui serait complètement obsédée par la perfection, Bienvenue à Gattaca. Et celui qui n'aurait pas cette perfection, qui serait fragile, quelle que soit sa fragilité, n'aurait plus droit de cité. Or, peut-être c'est le risque avec le transhumanisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu intituler cette émission « Notre humanité, un beau risque à courir contre toutes les dérives possibles du post-humain ». Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter la recherche scientifique ou ne pas s'intéresser au transhumanisme, mais au contraire, se garder de se laisser prendre les pieds dans le tapis, vous disiez Rubens tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de se laisser prendre au jeu d'une raison arrogante qui voudrait avoir raison de tout, d'une pensée calculante qui fonderait le monde sur sa logique formelle, en fait, hein, en serrant, encadrant, circonscrivant les données dans des big data et réduisant l'homme à une donnée remplaçable par une autre, au fond. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Dans quelle mesure, pour vous, il est urgent aujourd'hui de retrouver l'homme dans sa fragilité? Ça peut paraître complètement paradoxal dans ce monde, où on essaye justement de tout faire pour éviter de mourir, éviter de tomber malade, éviter de vieillir et éviter de tomber amoureux.
Alors, personnellement, j'ai deux points de vue qui s'entrechoquent un peu dans ma tête. Oui, c'est d'un côté, on peut se dire que l'humain est faible, et donc ça, c'est notre humain actuel qui semble faible sans ses machines, etc. Et on se dit que c'est cette faiblesse-là qui l'a poussé à avancer à chaque fois. Donc, par exemple, à créer des machines pour combler ses faiblesses sur certains points, etc. Donc, cette faiblesse a créé l'évolution. Et donc cette faiblesse fait partie de l'humanité. L'humanité est faible par définition, si je puis dire, si on voit ça comme ça. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est cette faiblesse actuelle qui nous pousserait à devenir des post-humains et donc à développer ces technologies pour devenir des post-humains? Donc d'un côté, on a le post-humanisme serait une évolution de l'homme. Est-ce que le post-humanisme serait vraiment la continuité dans l'évolution de l'homme, finalement? Pas forcément naturelle, même artificielle, mais oui, la prochaine oui. évolution de l'homme. Le post-humain. Donc on a cette chose-là d'un côté. Et de l'autre, on pourrait se dire, l'humain a quand même tendance naturelle à aller contre nature, si je puis dire. À aller à l'opposé de là où la nature voudrait l'emmener et être contre nature. Donc à essayer de rompre toutes ses chaînes avec la nature. Et le post-humanisme viendrait donc dans cette idée de rompre avec la nature. Donc c'est pour ça que ces deux choses-là sont opposées, mais je ne sais pas laquelle me semble la plus perspicace. La plus vraie, je ne sais pas.
Oui. Et la plus vraie, pourquoi la plus vraie?
La plus vraie ou la plus... celle qui collerait le plus à notre situation actuelle, si je puis dire. Ça veut dire, est-ce que nous sommes vraiment dans un stade d'évolution vers un nouveau post-humain, ou est-ce qu'on serait plutôt dans une phase de contradiction avec la nature pour essayer de s'en détacher encore plus vers du coup ces machines qui ne sont pas naturelles? Ou est-ce qu'on irait vers une évolution artificielle, qui serait toujours l'évolution... Mais d'un côté supervisé quand même par la nature, un peu, parce que c'est une théorie de la nature.
Ouais, c'est intéressant parce que pour reprendre les travaux de Philippe Descola, vous savez, qui est revenu sur les concepts nature-culture en évitant précisément de polariser de manière binaire une réalité entre nature et culture, en disant que ça n'avait plus lieu d'être, cette opposition, Alexandre, je me dis que l'homme, aujourd'hui, avec toute sa technique, c'est déjà un homme artificiel. On vit déjà avec une multitude de machines. Regardez, là, on est entouré de machines, au fond. Et de cette réalité-là, comment on peut aujourd'hui partir sans la renier, et devenir technophobe de manière dogmatique, mais sans non plus nous laisser prendre au piège d'une forme d'aliénation. On ne pourrait plus vivre sans. La situation avec l'artificiel, dont vous parliez, à juste titre, Alexandre, elle a toujours été complexe. Et de cette complexité-là, comment l'homme va-t-il ressortir vainqueur? C'est pas tant si elle est vraie ou fausse, si elle est bien ou mal, bonne ou mauvaise, plutôt, mais dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut penser un homme qui garderait cet espace humain et incarné tout en vivant avec la machine? Comment on pourrait reconstruire pour votre monde, à vous, les jeunes de demain, un monde qui puisse justement trouver une forme de bonne intelligence, de vie en bonne intelligence avec la machine? Elles ne vont pas disparaître, hein. On est dans ce monde-là, on y est. L'homme de la nature a-t-il vraiment jamais existé? Est-ce que ce n'est pas lui-même une utopie, quoi?
Peut-être que cet homme qui saura concilier son humanité, son authenticité et en même temps sa, sa tendance à au progrès technologique, il faudrait qu'il prenne du temps. Et en ce moment, on ne prend pas trop son temps. On voit, dès qu'il faut développer quelque chose, ça va super vite. Dès qu'il faut une technologie, il faut le plus vite, le moins cher, le plus. Et c'est super rentable, ça marche super bien. Jusqu'à ce qu'on arrive aux problématiques qui sont plus profondes et il est trop tard pour revenir en arrière. Donc, peut-être prendre le temps et ne pas avoir peur de perdre un peu tout de suite pour être dans une réalité plus en adéquation avec ce qu'on est plus tard et ne pas se précipiter. Beaucoup de cette adéquation entre l'homme authentique et sa technologie, à mon avis, peuvent venir avec plus ou moins de sagesse, avec plus ou moins d'erreurs qui surviendront, mais aussi avec le temps et nous pour les concilier.
Ouais, c'est vraiment super profond ce que vous dites, Rubens. Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste ?
C'est effectivement la voie à prendre. Malgré tout, sans être pessimiste, je ne pense pas que, d'une manière générale, on puisse changer le monde et changer la cadence à laquelle il s'accélère, puisqu'il ne fait que s'accélérer, par tous les moyens possibles, que ce soit en médecine, effectivement, rien que les transmissions, les messages, les voyages dans l'espace et tout. On veut toujours aller plus loin, plus vite. Je reprends les propos de Rubens, mais même si c'est la voie à prendre, je vois difficilement ça arriver dans les 10-20 prochaines années sans un complet retour à la réalité et retour à la nature de l'homme dans son ensemble.
Ouais.
De toute manière, j'ai l'impression qu'on a quand même deux choix, c'est pas tellement des choix, mais deux avenirs possibles. L'un, on va continuer comme ce qu'on fait actuellement, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas philosophiquement aux conséquences de nos créations, etc. Et donc on va continuer à créer, juste pour être rapide, comme disait Rubens, pour avoir de l'argent, pour des choses comme ça, même pour découvrir scientifiquement, ce qui en soit une bonne cause, des bonnes intentions, mais sans réfléchir aux problèmes éthiques derrière, et on n'y réfléchit qu'après coup. On y réfléchit trop tard, si je puis dire, comme avait dit Rubens. Et soit on continuera comme ça, et au bout d'un moment, on se prendra le mur, si je puis dire, parce que ces considérations éthiques vont nous rattraper forcément, et on va se rendre compte qu'on a fait des erreurs à certains endroits, et c'est difficile de voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va être quand même l'effondrement de certaines choses. Soit on commence à se rendre compte, donc le deuxième avenir possible serait de commencer à se rendre compte de ce qu'on fait actuellement, de réfléchir aux choses dont on n'a pas réfléchi maintenant, par exemple tout ce qui est clonage, donc des méthodes qui sont déjà... qui existent déjà, des méthodes de greffe, de choses comme ça, par exemple l'exocortex, donc des méthodes de greffe, enfin d'aide au cerveau humain, si je puis dire, reliées à des machines, des choses comme ça, plein de choses incroyables qui existent déjà, mais dont on n'a aucune considération éthique, on n'a pas du tout réfléchi là-dessus, est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que éthiquement c'est viable, ou des choses comme ça. Et soit on commence à réfléchir aux choses qu'on a faites, et aussi à l'avenir, on réfléchit avant de faire nos prochaines... des expériences et choses comme ça, soit on va dans l'autre direction, peut-être dans le mur, peut-être, mais c'est difficile à dire.
Oui, bien sûr, on n'est pas ici pour lire l'avenir, hein. Nul ne le connaît. En revanche, ce qui est intéressant de vos trois remarques, je rebondis sur elles pour me dire que dans ce rapport au temps et à l'espace que vous mettiez en avant, il y a vraiment une difficulté de l'homme contemporain à prendre son temps et donc à contempler. Il faut faire du chiffre, c'est-à-dire être dans une société de profit, être dans une sorte de pléonexia, hein, disait Aristote déjà, c'est-à-dire d'accumulation. Et dans cette accumulation où l'on entasse, où l'on fait au mieux pour le chiffre d'affaires, on se perd soi-même. Donc cette multitude de désirs, hein, qui s'accroît, cette multitude de choses à faire, de l'homme affairé des villes, semble peu à peu réduire notre humanité comme une peau de chagrin. Et cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et à laquelle la crise nous a confrontés, c'est la difficulté du sens, en fait. Nous ne savons plus, dans cette course aux choses et à l'argent, donner du sens, aussi bien une direction à nos actions, à nos paroles, qu'une signification à ces paroles et à ces actions. Oui.
C'est super intéressant, cette question du sens, parce que l'homme, dans son histoire, donc dans notre vision de l'histoire qui est altérée, mais qu'on en a, malgré ce que dit Pascal, c'est un roseau pensant, certes faible, mais quand même pas mal. L'homme est arrivé à un niveau technologique incroyable, où il maîtrise des énergies insoupçonnées, où il arrive à déplacer, à se déplacer, à construire, à développer, à imaginer à une vitesse que on n'aurait jamais imaginé 50 ans auparavant. Et maintenant que tout devient possible, qu'est-ce qu'on fait? Où sont nos nouveaux défis, notre nouveau sens? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça aussi, ça doit être à mon avis une ligne directrice de cette réflexion. Où est-ce qu'on mène à notre post-humain? Est-ce que quel prochain but on peut trouver? Ou peut-être pas un but, mais une quête, ou simplement un chemin où se poser et pas rester en stagnation, une stagnation où on construit, mais on construit pourquoi?
Je vois la remarque de Ruben, c'est un peu, je l'imagine un peu comme une bulle dans laquelle en fait l'homme a du mal à être raisonnable. Il se construit une bulle pour se protéger, pour être confortable. Et cette multitude de choses, ce manque de quête aussi, il essaye d'en trouver de nouvelles. Ça fait grossir cette bulle. Il a toujours envie de la rendre plus grosse, plus agréable, jusqu'au moment où elle éclate, parce que ça éclatera forcément à un moment donné. Et où il se rendra compte qu'il a perdu tout ce qu'il avait avant, donc tout son petit confort, en ayant simplement un autre lui. C'est-à-dire qu'il ne se retrouvera plus lui-même au moment où cette bulle éclatera.
Oui. Et on assiste à un tel effondrement aujourd'hui. J'aime beaucoup cette image de la bulle qui me fait penser à la tour de Babel en Genèse 32. C'est-à-dire qu'une tour qui veut toucher le ciel et qui finit par être totalement détruite, quoi. À l'image de nos grandes tours, à l'image de nos bulles, à l'image de nos paradis artificiels, au fond.
Moi, j'aimerais ajouter que d'abord, à l'échelle de l'humanité entière, c'est vrai que l'humain a un penchant très curieux, et que c'est la curiosité, à l'échelle de l'humanité évidemment, qui motive beaucoup, en dehors de l'économie, etc. On a quand même de la curiosité qui nous booste dans nos recherches, etc. Par exemple, les recherches du système solaire, de nouvelles énergies, choses comme ça.
Oui, c'est passionnant.
Il y a un intérêt évidemment économique, mais il y a aussi une grande curiosité, et c'est pour ça que c'est ça qui nous permet d'avancer et de faire grossir notre bulle, comme disait Baptiste.
Oui, c'est très juste.
Oui. Mais après, il y a aussi un autre point à discerner, c'est que ça, c'est justement, c'est à l'échelle de l'humanité entière. Et quand on va à l'échelle d'un humain lambda, par exemple, on peut voir que lui, ses motivations, son sens n'est pas du tout le même, puisque lui, parfois, des gens qui vont travailler je ne sais pas où, il y a beaucoup de gens qui travaillent et ont perdu le sens de leur travail parce qu'on leur dit de faire quelque chose pour qu'ils aient de l'argent, finalement, pour survivre. C'est plus une survie que de la vie, et beaucoup ont perdu le sens de leur travail en travaillant, et parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. C'est comme quand on sous-traite, par exemple, quand des pièces, j'en sais rien, d'avion, par exemple, on sous-traite énormément. Au bout d'un moment, on commence à fabriquer les boulons de quelque chose. Et on se dit, où vont partir ces boulons? Bah, je sais pas, moi, je m'en fiche, j'ai mon argent, c'est bon. Alors qu'en fait, peut-être certains vont partir pour faire des fusées, mais on n'en sait rien, parce que ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on veut, c'est notre argent. Et on veut survivre, ou alors on veut avoir quelque chose, mais qui n'est pas du ressort de l'humanité entière, qui veut autre chose. Donc on a deux sens différents, qui est un à l'échelle individuelle et l'autre à l'échelle de l'humanité entière, je pense.
Ouais, c'est vraiment, vraiment passionnant ce que vous dites, les jeunes, là, aujourd'hui, Alexandre, Baptiste et Rubens, parce que derrière la crise du travail se joue la crise morale, la crise d'une parole humiliée, la crise d'un homme qui est finalement devenu un rouage dans la machine. Et déjà, à travers les écrits d'Arendt, de Günther Anders, hein, on avait ce risque en filigrane d'un homme perdu, d'un homme remplaçable. Dans ce que vous dites là, dans la crise du travail qu'on traverse aujourd'hui, il y a un effondrement de l'homme, un effondrement de son sens. Il ne sait plus pourquoi il est là. Il faut qu'il survive, quoi. Et moi, je lisais dans vos remarques l'idée d'une pensée qui serait à retrouver, mais plus d'une pensée rationnelle ou calculante ou logicienne, mais d'une pensée qui ose imaginer. En fait, derrière ces faux rêves qu'on nous a vendus pour pas cher, hein, derrière cette facilité dont vous parliez, Rubens, il faudrait peut-être retrouver le sens de notre imagination, la force de l'imaginaire humain. C'est une pensée qui peut aller beaucoup plus loin que les simples chiffres qui s'empilent ou le chiffre d'affaires d'une entreprise, ou le compte en banque en fond, au fond. Et là, on rejoint vraiment cette idée. Hein. Vous savez, dans Bienvenue à Gattaca, Jérôme, c'est un valide qui exclut de Gattaca, la cité des étoiles, suite à un accident. Et Vincent, un non-valide, qui décide, lui, de braver le système en place et de tout faire pour rentrer au cœur de recherche spatiale. Et dans ce personnage de Vincent, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ce qui le distingue de tous dans cet univers, c'est sa foi, au fond. Il a une foi chevillée au corps et il veut tout faire pour y arriver. Et cette foi le transcende. C'est pas quelque chose qu'il a, c'est pas quelque chose qu'il possède, c'est une réalité qu'il porte. Et justement, là où les gènes fonctionnent tout au long du film comme une marque indélébile, où la science se voudrait en quelque sorte maîtresse de notre destin et pourrait corriger des imperfections humaines, Vincent montre que la foi peut aller au-delà de tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette foi? Et après, on écoutera un extrait de Bienvenue à Gattaca.
Vous avez dit que cette génétique, c'est un marqueur social.
Oui.
Mais ce n'est pas seulement un marqueur social, c'est des rails où les gens sont posés.
Merci.
Et ça roule. Et tout droit. Et Vincent, justement, il pose ses propres rails. Et c'est ça aussi qu'on doit faire, tout comme notre humanité générale perd du sens, nos individualités, perd de notre sens, et c'est en même temps terrible, en même temps génial, parce que c'est le terreau fertile pour recommencer quelque chose. C'est quand on a perdu tout ce sens, c'est là où on peut se remettre nos propres rails, et chacun à notre échelle, retrouver un peu de notre création, de notre intelligence, de notre marque sur ce monde.
Et pour arriver à ce résultat, je pense qu'il faut d'abord commencer par un processus où on prend conscience de notre condition. Parce que j'ai l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui. Comme l'a dit Alexandre, on ne sait plus pourquoi on travaille. Enfin, je dis « on », mais c'est certaines personnes. Ou peut-être tout le monde, d'ailleurs. Peut-être moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais si on n'a pas conscience de ce qu'on est, d'où on va, aussi, surtout, et de pourquoi on est là, si on n'a pas conscience de notre condition d'être humain, on ne pourra pas avoir le recul nécessaire pour se poser des nouvelles rails. Rien que de se dire pourquoi moi je peux faire ça, pourquoi j'ai envie de faire ça, etc. Comme Vincent. Vincent, il a conscience qu'il est non valide, génétiquement, mais comme les valides n'ont pas conscience de leurs conditions et ne savent pas pourquoi forcément ils sont là, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de détermination parce qu'ils considèrent que leurs rails vont tout droit, justement. Et alors que Vincent pose ses propres rails, comme l'a dit Rubens, c'est parce qu'il sait qu'il a une faiblesse génétique et il va devoir la compenser par une force mentale. Et c'est peut-être cette force mentale qu'on est en train de perdre aujourd'hui.
Alors moi, j'ajouterais que pour changer l'exemple des rails qui était plutôt adapté, je pense, à l'exemple du film, moi, je verrais plutôt l'exemple pour notre monde actuel d'un bac à sable. Ça veut dire qu'on nous donne aujourd'hui des outils technologiques pour permettre, par exemple, de créer nos musiques, pour créer nos films, des plateformes d'enregistrement, des caméras peu chères, etc. Mais en fait, ce sont des choses qui resteront même publiées dans un espace qui est prédéfini par les constructeurs, souvent, ou par les gens qui publient. Tout est un peu, enfin, je veux pas partir dans des théories un peu étranges, mais il y a quand même un certain contrôle sur tout ce qui est fait. Donc, en fait, on nous laisse un bac à sable, on dit... Faites ce que vous voulez dans ce bac à sable là, mais ça sortira pas du bac à sable. Et justement, il y a que certaines personnes qui arrivent à sortir du bac à sable. Il faudrait que tout le monde arrive à le faire pour pouvoir finalement construire ce qu'il veut à côté sans avoir de règles pour le faire et finalement pas avoir de limites, etc. Et ne pas rester dans cette conformité qui n'en paraît pas une, puisqu'on peut faire ce qu'on veut en soi, mais dans un espace qui reste, on ne voit pas souvent les limites parce que peu de gens testent ces limites là. Mais on voit assez rapidement qu'on est quand même limité et que ce qu'il faudrait faire, c'est que tout le monde sorte de ce bac à sable et voit qu'il peut faire autre chose d'encore plus grand. Et c'est justement grâce à cette foi dans le film que lui a pu se rendre compte qu'il a pu sortir de ce bac à sable et de faire ce qu'il a voulu sans être normé par les classes du film.
Mais c'est là que vous me faites réagir, Alexandre, en me faisant me dire que dans cette réalité du monde actuel où l'on est, dans nos sociétés contemporaines et riches, on nous dit « soyez vous-même », on vous donne la liberté d'être vraiment qui vous êtes. Et en fait, c'est très pervers parce que indirectement, on est environné de normes plus que jamais. On est complètement pris dans ce réseau invisible des normes où les diktats se jouent quant à nos modes de vie, à nos manières de construire notre carrière, de parler, d'agir, de se comporter en société, où toutes les différences, quand elles sont hors normes sociales imposées, passent si mal, au fond. Et c'est là que vous me faites réagir, hein, dans cette singularité de l'homme, dans son visage nu, dans son visage fragile, hein, celui dont parlait Lévinas, quelque chose d'une réalité de notre condition, Baptiste, vous l'avez dit, qu'on a perdu, c'est cette réalité de la mort, au fond. Et cette réalité de la mort qui fait partie de notre existence, quand on la perd, on finit par perdre aussi le rapport qu'on peut avoir à la création. Parce que ce qu'on laisse en créant, c'est la force d'un désir, la force d'une foi, la force d'une conviction, d'un rêve, hein, on peut le dire, qui, d'une certaine manière, dans sa présence quantique, est éternelle. Il y a une éternité qui se joue dans le temps si on accepte la mort. Donc si on donne sens à notre existence passagère, sans rêver à un surhomme ou à un homme qui valait 3 milliards, hein, pour reprendre la série de Steve Austin, eh bien, on peut se dire que dans cette acceptation, dans ce consentement à la mort, se joue notre liberté d'homme. Et c'est là, dans cette fragilité, qu'on pourrait passer l'extrait de Bienvenue à Gattaca d'Andrew Nichols.
La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celles de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois.
30 ans.
Le nom sur le certificat, Anton.
Non, Vincent, Anton. Oui, c'est un joli nom.
Je sais qu'il fera quelque chose. Tu feras quelque chose.
Depuis mon plus jeune âge, je me considérais comme les autres me considéraient. Un malade chronique. Chaque écorchure au genou, chaque petit rhume était traité comme s'il s'agissait d'une menace mortelle.
Je suis navrée. L'assurance ne le couvrira pas. Et s'il tombe...
Mais on m'avait affirmé qu'il n'y aurait aucun problème.
J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose.
Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi?
Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
Bien sûr. Ça va, Vincent? Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait
Des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Alors, c'est vraiment intéressant l'extrait qu'on vient d'entendre du film Bienvenue à Gattaca. Et je retiens un mot de cet extrait, le mot hasard. Voilà, ne rien laisser au hasard, tout prévoir. Dans cette société où l'homme est calculé, l'homme est choisi sur catalogue en quelque sorte, à partir d'une machine, on peut se dire que reste-t-il au fond de ce qui fait le sel de l'existence et le caractère imprévisible et imprévu de nos vies. À vous de réagir.
Ce qui fait ce sel, c'est... ça peut paraître bête, mais c'est notre part d'humanité, je pense.
Oui.
Parce que si on voit plus loin que le visage, par exemple, de Lévinas, qu'on voit plus loin que ce visage et qu'on ne regarde même pas l'aspect en fait, extérieur, et qu'on voit une vraie personne, une humanité derrière ce visage, un individu unique, là, on a du potentiel pour créer quelque chose de durable. Dans le cadre du transhumanisme ou de la perfection cherchée et adorée, on ne cherchera plus ce qu'il y a derrière le visage. On ne gardera que l'aspect et ce que donnent les gènes, etc. Et on n'aura plus cette détermination à chercher l'individu chez autrui.
Oui, on se réduira vraiment à une superficialité, à un masque. On sera détecté, détectable par des machines, comme dans Minority Report. Quand il va faire ses courses, c'est que les machines détectent par avance ce que la personne va acheter. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre ?
Comme disait Baptiste, oui, on va perdre, on va perdre ce visage, etc. Mais en fait, on n'aura même plus besoin de chercher derrière. Mais de toute manière, je trouve qu'il n'y aura pas à chercher derrière, puisque peu importe chez qui on cherchera, on tombera toujours sur la même personne. Cette même personnalité, pour n'importe quel individu qu'on prendrait dans la rue, si on suit l'exemple du film, où tout le monde est pareil quasiment, et c'est pour ça que les parents avaient peut-être voulu faire une bonne chose en laissant quelques imperfections, mais on voit que la société, je parle du médecin qui représente un peu la société, qui leur a dit non, il faut qu'ils soient comme les autres, donc on leur enlève tout ça, il y en a déjà bien assez, alors qu'il ne doit pas rester tant que ça. Et finalement, c'est à cause de ça qu'il va devenir peut-être... Enfin, lui, non, mais en l'occurrence, que tous les gens qu'il va rencontrer sont des gens... Finalement, la même personne qu'on rencontre à chaque fois, sous peut-être juste une apparence différente, choisie à l'avance, par un set, dans un set d'ailleurs qui est déjà très réduit, parce qu'on ne garde pas tous les caractères qui sont considérés humainement et comme moches, si je puis dire, mais ce sont des caractères totalement subjectifs, mais il y a des gens qui ne le voudront pas, donc certains disparaîtront, et on aura quand même un certain set de gens assez réduits, avec des personnalités quasiment uniques.
Un monde uniformisé.
Voilà, exactement.
Standardisé.
Ce sera beaucoup moins intéressant que notre monde actuel, où on rencontre tout et n'importe qui, n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est tellement plus rentable. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est ça la super menace. C'est maintenant que nos comportements sont super prévisibles. D'ailleurs, il faut savoir que les réseaux sociaux, ils collectent nos données, mais ce n'est pas forcément pour les revendre. C'est pour en apprendre plus sur nous et nous vendre notre comportement. Maintenant, on est prévisible, maintenant on sait que j'adore ce type de voiture, je vais avoir plein de types de pubs de voitures de cette marque. Maintenant, je vais souvent à ce café, peut-être qu'on va me proposer d'autres cafés du même style. Et on devient même prévisible sur ce qu'on connaissait déjà, sur notre apparence, nos vêtements. Mais notre comportement, on va pouvoir être industrialisé et formaté au plus rentable, au plus pratique. Et ça, encore plus que la technologie en soi, c'est ce qui me semble le gros écueil à éviter.
Une menace qui peut être une menace, bien sûr, anthropologique, mais une menace politique aussi. C'est-à-dire une menace de société dictatoriale assez vampirisante, puisque l'individu est gommé là-dedans et devient une rentabilité possible dans un univers de contrôle. Des sociétés de contrôle que dénonçait déjà Michel Foucault dans ses cours au Collège de France dans les années 80, qui tendraient dans ce côté assez panoptique où tout le monde est en vue, tout le monde est à vue sur des réseaux sociaux, via des machines, des données collectées, vous dites, et qui, dans cette mesure, seraient en quelque sorte déshumanisées, désincarnées de ce caractère étonnant, qui laisse à penser quoi, au sens où cette pensée, cet imaginaire sortirait du lot, donnerait quelque chose comme une intelligence à la Einstein, à la Mozart, une intelligence hors clou. Or, est-ce que dans le monde de demain, tel que Gattaca en parle, le monde de Gattaca, il y a encore une place pour un individu hors clou, justement, un individu qui n'est pas standardisé? Et ça, c'est la vraie menace. Vous dites bien, c'est la vraie menace. Parce que, au fond, on peut se dire que notre humanité se perd, s'effrite là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette difficulté à être soi-même aujourd'hui selon des désirs qui ne soient pas greffés à une matrice de désirs préconfigurée et qui nous configure à des standards?
C'est intéressant, il faut se réveiller au plus vite possible sans vouloir jouer l'alarmiste complotiste.
Oui,
mais on est passé à un nouveau seuil de contrôle très intéressant, puisque déjà dans 1984, on a ce super contrôle qui oblige les gens à penser, puisqu'il y a une police de la pensée, comme le pouvoir le veut, comme le parti le veut, à agir comme le parti le veut. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'à terme, ça ne fonctionnait pas super. Et alors, on a trouvé un autre moyen, c'est exactement comme disait Alexandre avec son bac à sable, pensez comme vous voulez, mais dans le bac à sable. Vous pouvez créer ce que vous voulez, mais sur Instagram. Créez votre musique, mais c'est sur YouTube, rien d'autre. Et donc, on a réussi à mettre des barrières invisibles et tellement puissantes qu'on s'y accroche, qu'on a besoin de ces barrières qui deviennent maintenant essentielles. Et en fait, si on ne se rend pas compte de notre enfermement, on risque de rester plongé dedans, puisqu'il y a très peu de moyens de s'en rendre compte sans totalement en sortir. Et ça, c'est très dur, à mon avis.
Oui, vraiment.
Oui, parce que j'ajouterais que le fait qu'en sortir de ces barrières, etc., ça reviendrait vraiment à quitter tout ce qu'on connaît, à changer notre mode de pensée qu'on nous inculquait depuis qu'on est tout jeune, surtout pour nous d'ailleurs. Donc c'est quitter ce mode de pensée-là, quitter ce que voient les... Enfin, comment veulent que les gens nous voient, pardon, quitter toutes ces idées préconçues, et ça c'est quelque chose de très compliqué, même nous, pour nous qui avons déjà rien que 18 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais par rapport à d'autres personnes, c'est quasiment rien. Et rien qu'en 18 ans de vie, on a déjà inculqué tellement de choses qu'on ne pourra jamais les quitter d'un jour à l'autre. Ça veut dire qu'il faudra pratiquement naître en dehors de cette société-là pour se rendre compte de l'extérieur des barrières qu'elle comporte. Et même en ayant les meilleures intentions du monde, c'est très compliqué de faire depuis l'intérieur, parce que quand tout le monde se vend, par exemple sur les réseaux sociaux avec des images qui sont parfois mieux, parfois vraies évidemment, mais parfois mieux qu'ils ne le sont, etc., pourquoi ne pas le faire nous aussi? Il y a plein de choses comme ça, et il faut avoir vraiment une morale solide, etc. Il faut vraiment le vouloir pour sortir de cette chose-là, ce qui est très compliqué. C'est pour ça que je pense que les personnes qui y arriveront vraiment sont celles qui peut-être pourront naître en dehors de ce système-là, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour.
Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive, et c'est peut-être aussi pourquoi on est là. Oui. Parce que vous avez parlé d'éducation à un moment, et plus on réfléchit sur ces aspects, et plus on se rend compte que la seule solution à long terme, c'est l'éducation. Donc peut-être que ce ne sera pas évident pour nous, évident pour personne, mais peu à peu, peut-être nos enfants, peut-être nos petits-enfants, on peut faire évoluer les choses dans le bon sens.
Mais une éducation repensée, une éducation reconfigurée, une éducation revécue, je dirais à partir de nos sens, justement, de nos cinq sens. Revenir dans le terreau de l'incarnation humaine, c'est revenir à cette force de la pensée que je crois être aussi dans l'imagination. Retrouver notre imagination et ne plus se laisser faire par des images toutes faites. Arrêter d'être cette fashion victime. C'est pas seulement acheter des marques, c'est aussi la fashion victime des images de pub et de tout ce qu'on nous vante, quoi.
Et tout en faisant attention de ne pas retomber dans le même système dans lequel on est passé. Par exemple, on a dit au début, Rumetz disait qu'il y a eu une obligation de penser telle chose, ça n'a pas marché, donc on a laissé plus de liberté en mettant des barrières visibles. Et on pourrait se dire totalement que, ah, on a un nouveau mode de pensée, maintenant c'est bien, admettons que tout est abrogé, mais que des barrières encore plus grandes soient posées, et que finalement on se rende toujours pas compte, on soit toujours bloqué dans des choses. Faut aussi faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire tout de suite, ah, on a tout ce qu'on veut, c'est bon, c'est fini, et s'arrêter là. Il faut toujours remettre en permanence sur la table le problème et faire attention de ne pas y revenir tout le temps.
Au fond, cette éducation, c'est davantage un exercice de vigile consciente en amont et qui s'exerce au fond dans le dialogue permanent. Exactement. Et c'est pas quelque chose qui serait de l'ordre d'une méthodologie, de l'ordre d'un circuit tout tracé, ou encore d'un cours et puis c'est bon.
Oui, voilà, si je puis dire, c'est une révision constante de l'état dans lequel on est et de revoir en permanence de l'extérieur comment est-ce qu'avance notre monde actuellement, comment sont les acteurs, qui fait quoi exactement. Et c'est de savoir ces choses-là et de se les remettre en permanence, les remettre en permanence sur la table et les étudier en permanence, de voir comment ça évolue, qui va peut-être permettre un vrai changement.
Oui, c'est très pertinent, vraiment. Hein,
Et en allant dans le même sens, c'est un peu cartésien, mais c'est toujours tout remettre en question. Pas de manière paranoïaque, mais de manière consciente et simplement éveillée. Simplement se poser des questions sur nos modes de vie, comment faire autrement, comment sortir de tout ça, comment se détacher de ce à quoi on est attaché, rien que les modes de vie, ouais. Les modes de consommation par exemple.
Mais c'est très clair, hein. C'est juste ce que vous dites, Baptiste, et ça me permet de repenser à ce que vous m'aviez demandé un jour en cours, d'où vient l'étymologie de fort interne, fort externe, FOR. C'est le forum en latin. Donc la place publique, et la place publique, c'est retrouver le débat public, mais le vrai débat public, le débat public d'une parole vivante, d'une parole incarnée, hein, qu'elle soit politique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit historique. Et puis, cette parole vivante n'est possible que si l'on se parle à soi-même, si l'on est conscient, comme vous dites, dans cette vigile de l'esprit, ce forum intérieur, si on ne l'entretient jamais, si on se laisse faire par tout ce qui nous vient, de façon facile, confortable, paresseuse et lâche, dirait de la Boétie, hein, eh bien, on finit par ne plus être soi. Et c'est là qu'est le grand danger. Réinventer le langage, ouais, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, quel qu'âge qu'on ait. Mais c'est l'enjeu. C'est l'enjeu poétique de l'homme. Habiter le monde en poète, c'est peut-être le beau risque à courir pour l'homme aujourd'hui, afin de retrouver son incarnation. C'est pour ça que je voudrais citer aujourd'hui le très beau livre de Martin Stephens et Pierre Dulot, « Faire face, le visage et la crise sanitaire ». Et dans ce livre, à la page 40, il cite Jean-Louis Chrétien, un philosophe phénoménologue qui est décédé il y a 2 ans. « Comme il y a une arche de la parole », hein, il reprend le titre d'un livre de Jean-Louis Chrétien, « une arche de la parole, dit Martin Stephens, sans laquelle chaque interlocuteur bavarderait de son côté, sans jamais pouvoir rejoindre l'autre », il y a comme un troisième visage qui nous gouverne verticalement. Ce visage invisible, condition de tout envisagement, est celui que nous prêtons à autrui avant même de le regarder, avant de pouvoir le regarder. Ce troisième visage tient dans la simplicité minuscule, dans le face-à-face. Nous ne pourrions ni nous voir, ni nous envisager sans nous savoir toujours déjà regarder et comme enveloppés par un visage tiers. Et c'est pas pour rien, termine-t-il, que les hommes ont cherché, ou craint, ou redouté, ou adoré de Dieu le visage. Ce visage premier qui nous donne de nous envisager. Je vous dis que ce rapport à la transcendance, il est essentiel et qu'il nous permettra de retrouver cette force de la poésie, de l'imaginaire et du dialogue véritable. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je ne sais pas si ça rentre tout à fait, ça répond tout à fait à votre question, mais ça me fait penser à la mythologie japonaise dans laquelle les individus ont 3 masques. Celui qui présente aux autres, celui qui présente à leur famille, à leurs amis, et celui qui présente à eux-mêmes. Et le masque extérieur, on aura beau le changer, l'améliorer ou en faire ce que l'on veut, et même le deuxième visage, celui qui reste à l'intérieur de nous, il ne pourra jamais changer. Et si on perd ce rapport à ce dernier masque, donc à nous-mêmes, si on pense qu'à autrui, etc., enfin qu'à autrui dans le sens où à l'image qu'on donne à autrui, on perdra ce rapport à ce premier visage et on perdra en fait juste notre humanité.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment, Alexandre, Baptiste et Rubens, pour cette émission. Et je remercie tous nos auditeurs de Radio Aligre, de Philosophie au présent. Nous réinviterons Baptiste, Alexandre et Rubens pour une émission dont ils choisiront eux-mêmes le thème. À très bientôt.